Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Alberson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, l'opposant Soumaïla Cissé a rejeté publiquement hier la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta.
En République démocratique du Congo, un ex-chef rebelle, Elie Kapende Kanyumu, a été interpellé après un ultimatum présumé au président Joseph Kabila.
L'Afrique du Sud a accusé le président américain Donald Trump d'attiser les tensions raciales après un tweet sur la réforme agraire dans ce pays.
L'Espagne a renvoyé hier vers le Maroc une centaine de migrants entrés illégalement la veille dans l'enclave espagnole de Ceuta.
Ici à Washington, le président Trump discute publiquement de son éventuelle destitution.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, rejet de la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta par l'opposant Soumaïla Cissé, officiellement battu au second tour de la présidentielle. Monsieur Cissé a affirmé hier « Je rejette catégoriquement les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et je ne reconnais pas le président proclamé vainqueur par elle ». Soumaïla Cissé s'adressait hier à ses partisans réunis dans un hôtel de Bamako et qui prévoit une série de manifestations pour contester la réélection d'Ibeka. Compte rendu de notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Lors de cette déclaration, Soumaïla Cissé a commencé par dénoncer la fraude et le bourrage dur.
Qu'on ne s'y trompe pas, l'impossible traitement adéquat de ces fraudes massives crée chez nombre de nos compatriotes une véritable et profonde défiance vis-à-vis de notre système institutionnel.
Les candidats de l'URD craignent pour les élections à venir d'ici la fin de l'année.
Soyons donc tous assurés que le système actuel de fraude, d'achat de conscience et de tricherie engendrera un monstre démocratique dans lequel le même clan, le même parti, la même famille contrôle l'exécutif, le législatif et les collectivités territoriales.
Soumaïla Cissé a accepté la volonté de ses partisans à ne pas reconnaître les résultats du second tour.
Je rejette catégoriquement et sans équivoque les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, je ne reconnais pas élu le président déclaré par elle. Cette institution s'est discréditée en se constituant prisonnière volontaire d'un régime autocratique.
Dans la foulée de cette contestation, une grande marche synchronisée avec les capitales régionales sera organisée le samedi prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta avait dit lundi tendre la main à son jeune frère de l'opposition, car le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Mais hier à Nouakchott, où il a effectué un bref déplacement, le premier depuis l'annonce de sa réélection, M. Keïta a déclaré « Il serait convenable et souhaitable qu'ici et maintenant, on prenne la main que j'ai tendue à mon jeune frère Soumaïla Cissé pour qu'il gère le réel et non des illusions ».
En République démocratique du Congo, un ex-chef rebelle, Elie Kapende Kanyimbu, a été interpellé après des propos interprétés par certains médias comme un ultimatum lancé au président Joseph Kabila. Elie Kapende est un compagnon d'armes de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel dirigeant de la RDC. Le chef du Front de Libération Nationale du Congo a été arrêté 2 jours après une conférence de presse au cours de laquelle il a donné au président Kabila une date pour quitter le pouvoir. Les détails avec Eddy Isango.
L'ex-chef rebelle a, selon ses proches, été conduit à la DEMIAP, le service des renseignements militaires. L'interpellation a eu lieu après une réunion du bureau politique de son mouvement, les Fronts de Libération Nationale du Congo, FLNC, transformé en parti politique. Selon ses proches, des militaires et d'autres personnes en tenue civile ont amené l'ex-chef rebelle hier dans l'après-midi. Elie Kapende, ancien compagnon de Laurent Désiré Kabila, aurait tenu le 21 août des propos interprétés par certains journalistes comme un ultimatum au président Joseph Kabila, à qui il demandait de quitter le pouvoir le 26 août au plus tard. Le FLNC était à la base de la guerre du Chaba, actuel Katanga, en 1977 et en 1978. Elie Kapende était à la tête des ex-gendarmes katangais qui ont plus tard appuyé Laurent Désiré Kabila à renverser le régime de Mobutu.
L'Afrique du Sud a accusé le président américain Donald Trump d'attiser les tensions raciales après que ce dernier a parlé dans un tweet des expropriations et des meurtres de grande envergure, selon lui, de fermiers blancs dans ce pays africain. Il a dit aussi avoir demandé au secrétaire d'État Mike Pompeo d'étudier de près cette affaire. Pour une porte-parole du gouvernement sud-africain, M. Trump n'est pas informé. Elle a ajouté que Pretoria rejette totalement cette vision étroite qui ne vise qu'à diviser la nation et à nous rappeler notre passé colonial. Et le gouvernement sud-africain de promettre dans un tweet une réforme agraire et prudente et inclusive.
En réaction à cet échange, deux sénateurs américains, membres de la Commission des affaires étrangères, le républicain Jeff Flake et le démocrate Chris Coons, ont dit que ces tweets malheureux du président Trump ne devraient pas détourner les États-Unis de l'amélioration des relations avec l'Afrique du Sud, ajoutant qu'ils se soucient profondément des rapports avec tous les pays africains. Des relations constructives, ont conclu les sénateurs Flake et Coons, requièrent un dialogue mesuré par opposition à des tweets arbitraires. Fin de citation. Nous reviendrons sur cette controverse en seconde partie de cette édition.
Les autorités bissau-guinéennes ont officiellement lancé hier un recensement électoral en prévision des élections législatives prévues cette année. Aucun électeur n'a pu être enregistré et le matériel électronique prévu à cet effet n'a pas été livré à temps par le Nigeria et le Timor oriental. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Nous n'avons pas encore reçu les kits qui doivent venir du Nigeria à cause d'un problème logistique, mais dans quelques jours, tout rentrera dans l'ordre, le recensement pourra effectivement démarrer, a rassuré le Premier ministre Aristide Gomez sans donner de date. Outre le Nigeria, le Timor oriental et le Cap-Vert doivent fournir aussi des kits de recensement et de conception des cartes d'électeurs. L'opération devait en principe durer 30 jours. Les autorités entendent cependant démarrer le recensement dès la réception de ces équipements. Il n'y a aucun doute que les législatives se tiennent le 18 novembre 2018, a ajouté le chef du gouvernement. Ces législatives doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis août 2015. Après 3 ans d'impasse, un nouvel accord de sortie de crise a été conclu en avril. Il a abouti à la désignation d'un premier ministre de consensus chargé de conduire le pays aux législatives.
L'Espagne a renvoyé hier vers le Maroc 116 migrants qui avaient été entrés illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta. Le point avec Morgan Guerriec.
Les 116 migrants subsahariens entrés mercredi de manière illégale à Ceuta ont été réadmis par le Maroc. Selon la préfecture de l'enclave espagnole, cette opération est fondée sur la réactivation d'un accord conclu il y a 26 ans entre l'Espagne et le Maroc. Mercredi matin, 116 personnes étaient passées en force en escaladant la double barrière de Ceuta. Certains jetaient sur les gardes-frontières des récipients remplis d'excréments, de sang et d'acide. Ceuta et Melilla présentent les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique. Selon l'OIM, depuis le début de l'année, quelque 3100 migrants y sont entrés. Par ailleurs, plus de 25 000 migrants sont arrivés par la mer en Espagne en 2018, faisant de ce pays la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe devant l'Italie et la Grèce.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a nommé comme émissaire spécial pour la Corée du Nord Stephen Biegun, le vice-président du constructeur automobile Ford et un ancien membre du Conseil national de sécurité. Monsieur Pompeo va retourner en sa compagnie à Pyongyang la semaine prochaine pour faire davantage de progrès vers l'objectif du président Trump, la dénucléarisation définitive et complètement vérifiée de la Corée du Nord, comme s'y est engagé le président Kim Jong-un, a déclaré devant la presse M. Pompeo, accompagné du nouvel émissaire. Il s'agira du 4e voyage de Mike Pompeo en Corée du Nord, le 2e depuis le sommet historique du 12 juin à Singapour entre le président des États-Unis Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
John Bolton, le conseiller de la Maison-Blanche en matière de sécurité nationale, a dit lors d'une conférence de presse à Genève avoir mis en garde son vis-à-vis russe contre toute ingérence dans les élections législatives américaines de mi-mandat prévues en novembre. Il a ajouté avoir dit clairement que les États-Unis sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour empêcher une telle ingérence. Une question qui a empêché M. Bolton et son homologue russe Nikolai Patrouchev de publier un communiqué commun à l'issue de leur rencontre à Genève. C'était la première rencontre à ce niveau entre Américains et Russes depuis le sommet du mois dernier à Helsinki entre le président Trump et son homologue Vladimir Poutine.
Ici à Washington, le président Trump parle publiquement du sujet de son éventuelle destitution. Il a dit dans une interview à Fox News « Si jamais je venais à être destitué, je pense que les marchés s'effondreraient et que chacun deviendrait plus pauvre ». Il a ajouté « Je ne vois pas comment on peut destituer quelqu'un qui fait un super travail ». La question d'une éventuelle destitution, qui est de plus en plus discutée depuis que son ancien directeur de campagne a été reconnu coupable de fraude fiscale et bancaire, et aussi depuis que son ex-avocat a reconnu devant un juge avoir acheté le silence de deux maîtresses présumées du candidat à quelques jours de la présidentielle de 2016.
La Chine a affirmé vendredi que les discussions bilatérales qui viennent de s'achever à Washington pour tenter de réduire le conflit commercial avec les États-Unis avaient été constructives et franches. Le vice-ministre chinois du commerce et le vice-ministre des finances de la Chine ont rencontré le sous-secrétaire américain au Trésor chargé des affaires internationales. Aucune avancée notable n'a cependant été annoncée. Jeudi, les États-Unis ont frappé de nouvelles taxes douanières, 16 milliards de dollars de produits chinois, déclenchant des représailles immédiates de Pékin au moment même de pourparlers bilatéraux.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le Togo et la Banque mondiale ont signé un accord de près de 30 millions de dollars pour financer des projets d'infrastructures et de développement urbain. L'enveloppe servira à financer le projet d'amélioration de l'accès aux infrastructures urbaines de base dans les villes de Lomé, Kpalimé, Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong. L'association des raffineurs et distributeurs a ouvert à Ouagadougou un atelier jeudi sur la chaîne logistique du gaz butane. Au cours de la rencontre de 3 jours, les participants vont mener une large réflexion sur la chaîne de mise à disposition du consommateur de ce produit de grande consommation, a déclaré la Société nationale des hydrocarbures. La Côte d'Ivoire a déjà vendu depuis mi-août 1,7 million de tonnes de cacao sur sa prochaine récolte qui doit démarrer début octobre. Le pays entend céder toute sa récolte avant le début de la saison afin de se prémunir contre l'instabilité du marché et maintenir ainsi un prix garanti à ses paysans entre 750 et 800 francs CFA le kilo contre 700 francs CFA pour la campagne qui s'achève.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Barrage aller de l'Europa League.
Le Zenit Saint-Pétersbourg bat les Norvégiens de Molde, 3 buts à 1. Le Maccabi Tel Aviv, battu par une autre équipe norvégienne, Sarpsborg, 3 buts à 1. Le FC Bâle bat l'Apollon de Nicosie, 3-2. L'Olympiakos s'impose contre Burnley, 3 buts à 1. Match nul entre le Partizan de Belgrade et Beşiktaş, 1 but partout. Le FC Séville qui bat les Tchèques de Sigma Olomouc, 1 but à 0. Le Celtic de Glasgow a été tenu en échec sur le terrain des Lituaniens de Sudova, 1 but partout. Et puis on va parler de la première équipe luxembourgeoise de l'histoire à atteindre les barrages de la Ligue Europa, Dudelange qui se rapproche de la phase de poule, une victoire hier 2 buts à 0 contre Cluj.
Le Togo et la CAN 2019.
Claude Leroy a donné la liste des 22 joueurs qui sont convoqués pour affronter le Bénin en septembre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le sélectionneur du Togo a appelé les cadres habituels comme Emmanuel Adebayor, Floy Ayité ou encore Mathieu Dossévi, ainsi que 7 nouvelles têtes qui font leur apparition, notamment Fadil Soumanou, James Olufade, Messan Toudji, Thomas Wogodo, Bilali Akoro, Samuel Asamoah et Kevin Denke.
En Angleterre, Bolasie sur le départ.
Barré à Everton par les arrivées de Richarlison et de Bernard, Yannick Bolasie est susceptible d'aller chercher du temps de jeu dans un autre club anglais. L'ailier international congolais pourrait rejoindre Aston Villa sous contrat avec les Toffees jusqu'en 2021. Le joueur de 29 ans serait prêt à aller jouer avec ce club de deuxième division anglaise.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Afrique du Sud en colère à la suite d'un tweet du président américain Donald Trump sur la réforme agraire dans ce pays. Pretoria a reproché à M. Trump d'alimenter les tensions raciales dans le pays. Le projet de réforme agraire controversé vise à rectifier les déséquilibres fonciers en Afrique du Sud, où la minorité blanche possède 72% des fermes. Le président Cyril Ramaphosa a notamment décidé d'exproprier de grands fermiers sans les dédommager, et il a souhaité pour cela amender la Constitution. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Pretoria l'analyste politique Achille Membe.
Depuis le début de l'année, le gouvernement a commencé à consulter le peuple sud-africain. Au moment où je vous parle, cette consultation se poursuit. Elle s'adresse à l'ensemble des couches de la population. Le gouvernement a également été engagé à mener une réforme agraire ordonnée qui ne débouche pas sur l'accaparement des terres d'une manière désordonnée. Et donc, je crois qu'il faut faire confiance au gouvernement. Je voudrais rappeler rapidement en passant que les terres sud-africaines sont occupées pour le moment par 8% de la population blanche, dans un pays qui compte à peu près 70% des populations noires. Il n'y a pas de viabilité possible pour un tel déséquilibre. Il est dangereux pour l'équilibre de la nation sud-africaine et donc la réforme agraire est une priorité, est un impératif absolu.
Et pourquoi maintenant ?
Mais parce que la population noire qui a été dépossédée historiquement, confinée dans des réserves totalement infertiles, elle ne supporte plus ce qui avait été infligé à cette population en 1913 lorsque le gouvernement blanc s'est accaparé de toutes les terres et a refoulé les noirs aux confins du pays.
Mais les terres en Afrique du Sud, il faut beaucoup de moyens parce qu'il faut irriguer pour pouvoir les exploiter.
Oui, disons qu'il y a des terres qui sont d'ores et déjà irrigués et sont possédés en majorité par la minorité blanche. Il faudrait effectivement investir massivement dans la reforestation, dans l'irrigation, si on veut effectivement démocratiser l'accès à la terre et favoriser l'émergence d'un petit paysanat noir ou même de grands fermiers noirs.
Est-ce qu'il n'y a pas des fins électoraux qui motiveraient le président Ramaphosa?
Disons que dans un régime démocratique, l'élection constitue effectivement le grand moment au cours duquel le pouvoir doit non seulement rendre des comptes, mais aussi chercher un mandat de ses électeurs. Et les électeurs de l'ANC ont donné mandat à l'ANC d'arriver à une redistribution plus ou moins égalitaire des terres. Il y a très peu de gens qui peuvent se lever aujourd'hui et dire que le fait que les Blancs occupent la majorité des terres, dire que cela c'est la voie qu'il faut suivre. Ce n'est certainement pas la voie qu'il faut suivre. Et donc, effectivement, il n'y a, je dirais, pas un souci électoral, il y a un souci démocratique. Ils ont mandat pour redresser les injustices qui ont été faites au cours des siècles, et en particulier depuis 1913.
L'exemple du Zimbabwe a été catastrophique pour le pays.
Mais l'Afrique du Sud n'est pas en train de répéter l'exemple du Zimbabwe, absolument pas. Elle est en train de chercher à résoudre cette question à sa façon, c'est-à-dire déjà de manière consultative, dans le cadre constitutionnel et en fidélité à un système économique qui fait place à l'économie de marché. Et donc les déclarations qui viennent des États-Unis en particulier aggravent la situation parce qu'elles reposent sur des données qui sont totalement fausses et qui enflamment les passions raciales dans ce pays, passions raciales qui sont par ailleurs entretenues par les mouvements conservateurs blancs d'extrême droite qui rêvent de restauration de la suprématie blanche dans ce pays à majorité noire.
L'analyste politique Achille Mbembe, joint en Afrique du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Burundi, et nous vous le disions hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a regretté la lenteur des négociations entre le gouvernement et l'opposition, malgré la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas être candidat à sa succession en 2020. Yakuba Ouédraogo a joint à Bujumbura Willy Nyamitwe, conseiller, principal conseiller du président Pierre Nkurunziza.
D'abord, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de négociation entre le pouvoir et l'opposition. C'est un écart de langage de la part du Conseil de sécurité. Il n'y a jamais eu de négociation entre le pouvoir et l'opposition. Il y a eu un processus de dialogue à plusieurs parties prenantes. Le peuple burundais a mené un processus de dialogue inter-burundais à l'intérieur du pays et un processus extérieur facilité par la communauté de l'Afrique de l'Est.
Pourquoi il n'y a jamais eu de négociation justement entre le pouvoir et l'opposition?
Négocier quoi? Il n'y a pas matière à négociation. Le Burundi est un pays démocratique. Il y a organisation des élections. Ceux qui contestent les résultats des élections, il y a des voies légales pour les contester. Alors ceux qui ont emprunté la voie du renversement des institutions démocratiquement élues, en tuant des gens et qui sont maintenant en cavale et d'autres en prison, nulle part au monde, on ne peut demander à un gouvernement de s'asseoir avec des hors-la-loi. Les hors-la-loi, leur place, c'est en prison.
Vous parliez de certains opposants qui sont en cavale. S'ils sont en cavale, c'est qu'ils ne se sentent pas en sécurité au Burundi.
Pas des opposants, mais des malfaiteurs. Il y a des malfaiteurs qui sont en cavale et il n'y a pas d'opposants en cavale.
Qui est-ce que vous appelez malfaiteurs?
Ceux qui ont tenté de renverser les élections démocratiquement élues et ceux qui ont aussi participé à l'insurrection dans le pays.
Vous dites qu'il n'y a pas de négociation entre pouvoir et opposition au Burundi. L'ONU a quand même un représentant là-bas, la personne de Michel Kafando. Qu'est-ce qu'il fait, lui?
Je n'ai jamais entendu Michel Kafando parler de négociation entre le pouvoir et l'opposition. Je l'ai entendu parler d'un processus de dialogue pour la recherche des solutions aux problèmes qui soient sociaux, politiques, économiques, sécuritaires ou autres. Ce n'est pas pour mener quelconque négociation entre le pouvoir et l'opposition.
Vous parliez d'un processus de dialogue à l'interne. Qu'en est-il?
Il y a eu un processus qui a été conduit par la Commission nationale de dialogue inter-burundais et les Burundais avaient aussi demandé qu'il y ait l'amendement de la Constitution. Cet amendement a eu lieu, le référendum a eu lieu, la Constitution a été promulguée et les Burundais sont en train de s'organiser pour aller vers les élections de 2020.
Vous parliez d'un processus enclenché par la communauté d'Afrique de l'Est. Où en êtes-vous?
Nous sommes dans une phase finale parce que le facilitateur a convoqué une cinquième session de dialogue inter-burundi et cette cinquième session sera certainement consacrée à l'accompagnement par la communauté de l'Afrique de l'Est à ce processus électoral de 2020.
C'était Willy Nyamitwe, principal conseiller du président Pierre Nkurunziza, joint à Bujumbura.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'épidémie de choléra dans le Sankuru, en RDC.
Le choléra, une maladie endémique dans plusieurs provinces de ce pays, où l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement reste un luxe pour des millions de personnes.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Willy Kinginda, chef de la zone de santé de l'Ostambo, le chef-lieu de Sankuru, qui fera le point de la situation.
Nous écouterons les avis de divers spécialistes de l'OMS et du ministère de la Santé sur les moyens de combattre la maladie.
Votre Santé, Votre Avenir est en programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 61 morts. Les autorités ont annoncé aussi l'utilisation de 5 nouvelles molécules thérapeutiques. Eddie Isango a joint sur le terrain Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé.
À la date d'hier, donc, il y avait 103 cas, 76 cas confirmés, 27 cas probables. Et donc, ça, c'était la situation donc, d'hier. Je n'ai pas encore la statistique de la fin de cette journée.
Comment expliquer que les nombres semblent continuer à augmenter alors que vous avez un traitement expérimental d'au moins 4 à 5 nouvelles maladies.
Je crois qu'il faut bien comprendre la maladie. Donc d'abord, la maladie à virus Ebola est une maladie qui a une incubation de 21 jours. Donc ça veut dire le fait d'avoir des nouveaux cas était quelque chose de tout à fait attendu dans la mesure où, au moment où nous avons déclaré l'épidémie, il y avait toute une série de personnes qui étaient en fait des contacts, qui avaient été en contact avec des malades et qui étaient donc susceptibles de développer la maladie. Donc il était normal que pendant quelques jours, il y a encore des nouveaux cas. Le fait d'avoir des nouveaux cas n'est pas du tout péjoratif. Et je pense même qu'au cours des derniers jours, il y a de moins en moins de nouveaux cas. On n'a pas le nombre de nouveaux cas comme on en avait constaté au début de la riposte. Et même le taux d'occupation dans le centre de traitement Ebola, que ce soit à Beni, que ce soit à Manguina, a fortement diminué. Par contre, ce qui a nettement amélioré, c'est que la proportion donc de guéris augmente. Sur les 76 cas confirmés, donc nous avons 34 décès. Ça veut dire aussi que l'instauration des nouvelles molécules fait que le pronostic et la prise en charge est meilleure.
Et quel est l'impact de la vaccination qui est menée là-bas sur place?
À ce jour, nous avons déjà vacciné près de 2500 personnes. Donc en fait, nous sommes vraiment relativement confiants. Nous allons probablement entrer dans une nouvelle phase de la riposte où nous avons vacciné un maximum de contacts. Nous commençons maintenant à vacciner aussi des contacts. Donc nous verrons dans les prochains jours la tendance épidémiologique. Et donc on pourra très très vite savoir dans quelle mesure nous sommes parvenus à casser la chaîne de transmission du virus dans les communautés.
Vous avez étendu vos opérations vers l'Ituri, dans l'axe routier. Y a-t-il des craintes que la maladie s'étende vers cette région?
Les craintes étaient présentes dès le premier jour. Donc vous savez que l'épicentre, c'est Manguina, est en fait une aire de santé qui est tout à fait voisine de l'Ituri.
C'était Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Pour terminer, et selon les statistiques, les accidents de la route font plus de victimes en Afrique que le paludisme. Cela peut être attribué à un certain nombre de facteurs, notamment l'abus de l'alcool, le non-respect des règles de la circulation et bien d'autres encore. Quelles sont les mesures prises au Cameroun, par exemple, pour faire face à cette situation? Deux Camerounais ont trouvé une solution qui pourrait réduire le nombre d'accidents, une application dénommée Traveler et qui désormais est reconnue comme une innovation dans la sécurité routière. Gabi Dorsil.
Lorsque Achiri Arnold Ndji et Kenfa Terence Kevin ont terminé leurs études et commencé leur carrière en tant qu'entrepreneurs sociaux, ils ne savaient pas qu'ils allaient gagner le prix de l'entrepreneuriat africain en 2016, puis le prix Orange de l'entrepreneur social en 2017. Leur passion était de créer une solution mobile qui résoudrait un problème auquel le continent fait face. Le continent n'a que 2% des véhicules du monde, mais enregistre 16% des cas d'accidents de la route. C'est ce problème qui a inspiré Arnold et Kevin à créer une application mobile appelée Traveler. Écoutons Achiri Arnold Ndji.
Cette application est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la télécharger sur Google Play Store. Nous savons où vous êtes et s'il y a un problème avec votre voiture, l'application le détectera automatiquement. Ce n'est pas le conducteur qui nous signale l'accident, mais l'application qui le fait via l'utilisation d'une technologie qui nous permet également d'éliminer les accidents avant qu'ils ne surviennent.
Le secteur des transports en Afrique est essentiel pour réduire la pauvreté et stimuler la prospérité. Les transports facilitent l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé. Ils relient les biens et les services au marché et constituent un moteur essentiel de la croissance dans les pays africains où 90% des personnes et des biens se déplacent par voie terrestre. Grâce aux innovations technologiques, les pays africains peuvent améliorer leur sécurité routière en se basant sur l'expérience et les leçons tirées des pays plus avancés. Ngou Brandon est un conducteur.
Au début, c'était juste
un logiciel de prévention d'accidents. Mais maintenant, ils font plus que ça. Ils nous donnent les premiers secours en cas d'accident. Les familles sont notifiées. Vous pouvez voir la vitesse d'un conducteur sur votre téléphone cellulaire.
La situation en Afrique est grave. Les accidents de la route y sont trop fréquents. Il n'est donc pas étonnant que Traveler ait reçu un accueil positif, non seulement au Cameroun, mais aussi à l'échelle mondiale.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.